Amis, nous allons à nouveau ouvrir la parole de Dieu. Mais vous savez que la parole de Dieu, elle n'est pas seulement écrite. Elle est écrite, mais il y a le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs, les écrivains sacrés. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous éclairer cette parole, pour nous conduire dans toute la vérité qu'elle révèle, qu'elle exprime. Et la parole devient alors vivante. Elle devient vivante. Ça dépend de nos cœurs. Nos yeux peuvent lire, mais il faut que nos cœurs reçoivent et comprennent. C'est le mot de Jésus. Entendent et comprennent la parole de notre Dieu. Alors nous allons lire ce matin dans les Colossiens. Colossiens au chapitre 3 et nous commencerons au verset 5. Non pas que les quatre premiers versets ne soient pas très intéressants, ils le sont, mais c'est pour rester surtout sur la partie qui va nous intéresser ce matin. Ainsi, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Si vous avez le mot charité, oubliez-le dans vos versions. C'était le mot qu'on avait jugé au XIXe siècle, même au XVIIIe siècle, bon, d'opter, de prendre, mais c'est le terme grec agapé, s'il vous plaît, ça veut dire amour. C'est l'amour de Dieu. Alors, demain, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà. Eh bien, nous allons particulièrement nous attacher à cette proclamation de la parole que nous avons lue au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Dans les versets précédents que nous avons lus aussi, nous voyons en somme l'apôtre nous adresser de sages recommandations, et l'ensemble de ces recommandations nous amène précisément à la mise en pratique de l'amour. Et sa conclusion, alors, il l'amène au verset 14, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Je vais laisser de côté les versets 5 à 10, 5 même à 13, pour tout de suite en venir au but de notre méditation, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on peut attacher à cette expression trois significations. Essayons de les distinguer l'une de l'autre. La première signification est celle-ci. L'amour est le lien, donc il lie ensemble toutes les vertus chrétiennes, toutes les vertus chrétiennes en un faisceau. En un faisceau. Première manière de comprendre. Deuxième manière de comprendre. L'amour est le lien qui unit les membres du corps de Christ d'une façon parfaite. Dans la première manière de comprendre, nous avions vu que l'amour liait ensemble les vertus chrétiennes, les qualités chrétiennes qui précisément composent l'amour. Là, nous voyons dans cette deuxième manière de comprendre que l'amour va lier ensemble les membres du corps, vous, les membres du corps de Christ, les lier ensemble, unis par le lien de l'esprit. C'est bien exprimé dans les Éphésiens. Voilà la deuxième manière. La première fois, donc, les qualités. La deuxième fois, les membres du corps de Christ. Et puis, une troisième manière de comprendre, qui est celle-ci, dans l'état de perfection, c'est-à-dire, si vous voulez, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sera l'état de perfection. Dans ce royaume de Dieu, l'amour reste tout seul. L'amour reste seul. La justice n'est pas répressive. La justice, c'est le grand ordre de Dieu qui maintient précisément la perfection. Alors, dans cet état de perfection, l'amour reste seul comme lien entre les hommes et Dieu, les hommes qui sont dans la gloire, naturellement, n'est-ce pas? Les hommes et Dieu, c'est le lien qui unit les hommes à Dieu, et entre les hommes eux-mêmes. Donc, là, dans cette troisième acception, l'état de perfection est regardé comme le lien de l'état de perfection. Dans l'état de perfection, s'il y avait maintenant la perfection, si nous étions dans le règne de Christ, n'est-ce pas, eh bien, nous serions parfaitement unis au point, entre nous, au point qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour dire à l'autre « Oh, laisse-moi tranquille, écoute tout à l'heure ce que tu me gênes, etc. » Même des petites choses comme ça, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Enfin, il y aurait vraiment un lien parfait, le lien de l'amour parfait entre tous et puis entre chacun et Dieu. Eh bien, les trois sens que nous venons de dire et qui peuvent très bien se comprendre, il faut les accepter tous les trois. Tous les trois sont bons. Il est vrai que l'amour est le lien de la perfection, il lie les qualités, tous les caractères qu'a l'amour entre eux, il en fait un faisceau. Il est vrai qu'il unit les membres du corps de Christ, et il est vrai que dans l'état de perfection, il est le seul lien, la seule chose, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'obligation, plus rien du tout. Dieu ne laissera pas subsister la plus petite obligation. Il n'y a pas d'obligation dans l'amour. Il y a l'élan véritable pour l'accomplissement de la justice de Dieu qui n'a pas besoin d'être formulée par une loi extérieure. Hein. La justice de Dieu est dans l'amour, accomplie par l'amour, et c'est ça l'état de perfection. L'amour de Dieu est lui-même parfait. Il ne naît pas comme l'amour humain, l'amour naturel, il ne naît pas d'une attirance personnelle. Assez souvent ici, n'est-ce pas, ben, il faut bien le reconnaître, tiens, cette personne, elle me plaît, oh, elle est sympathique, vraiment, je l'aime bien. Tu l'aimes bien parce qu'elle est sympathique. Mais attends, voici une autre personne là, tu la juges pas sympathique celle-là, alors tu l'aimes pas. N'est-ce pas? L'amour va au-dessus des sympathies ou des antipathies. L'amour surpasse tout ça. C'est pourquoi, mettant les choses en pratique, je me suis appliqué depuis bien des années, quand je vais dans des églises, à regarder particulièrement les personnes, les membres de cette église qui sont, si vous voulez, les plus désavantagés sous certains rapports, par exemple peut-être le rapport physique, peut-être parce que elles ont un handicap, ou peut-être parce que elles sont discrètes, elles se cachent, etc. Et je me porte surtout. Et ça a été vraiment quelque chose que le Seigneur a encouragé. Je me porte vers ces personnes d'abord. Je ne vais pas vers les personnes les plus en vue, qui parlent bien, qui ont un beau collier de barbe, par exemple, n'est-ce pas, qui ont un certain port, une majesté, n'est-ce pas, qui vous saluent, bonjour mon frère, comment ça va, on est heureux de vous voir, etc. Non, moi j'aime aller vers... Il y avait ici, par exemple, un brave frère, il est toujours en vie, d'ailleurs il s'appelle Joe. Parce qu'il y en a qui l'ont connu, Joe. Hein? Ben, ce pauvre Joe, il est désavantagé physiquement. Il a toujours, j'ai toujours vu comme ça, n'est-ce pas? Bon, eh bien, et puis, quelquefois, il vous casse un petit peu la tête. Il faut bien le dire. Enfin, eh bien, pourtant, on l'aimait énormément ici. On l'aimait, on l'aime toujours, il nous envoie toujours un courrier à la fin de l'année, et c'est un frère qui est très près du Seigneur. Alors, il faut l'aimer tel qu'il est. D'ailleurs, il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ah, connaissons plus personne selon la chair. Je me rappelle aussi, dans une certaine église, où j'étais resté un certain temps, il y avait un groupe de jeunesse important. Et puis, je parlais avec un garçon, surtout, qui aimait bien venir me poser des questions, tout ça. Alors, je lui disais, qu'est-ce que tu fais dans l'église ? Oh, mais il me dit, moi je suis au milieu de la jeunesse, le groupe de jeunesse, et je travaille, là, je suis là, n'est-ce pas? Bon, il me disait tout ce qu'il faisait en groupe de jeunesse. Bon, je lui dis, mais tu sais, il y a d'autres tâches aussi dans l'église, est-ce que tu y participes? Par exemple, à certains moments, il faut faire du nettoyage, il y a des réparations à se faire. Est-ce que tu participes à ça? Non, c'est pas ça. C'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Ah, toi, c'est le groupe de jeunesse. Et puis alors après, en causant avec lui, n'est-ce pas, il a fini par me dire, oh, dans le groupe de jeunesse, oui, il y a des sœurs, elles sont magnifiques, c'est ça. Alors, il était dans le groupe de jeunesse surtout pour les sœurs. Alors, je lui ai dit, mon garçon, tu es en train de tourner le dos au Dieu que tu prétends servir, que tu prétends aimer. Eh bien, maintenant, tu vas t'intéresser à d'autres choses qu'au groupe de jeunesse. Tu resteras dans le groupe de jeunesse si tu veux, mais tu feras autre chose. Si tu veux vraiment, n'est-ce pas, redresser la situation, parce que tu es en train de suivre un très mauvais chemin. Vous voyez donc, n'est-ce pas, que l'amour est au-dessus des attirances naturelles. Il faut qu'il domine ces attirances-là. Les sympathies. Les accords de pensée aussi, on aime quelqu'un parce que, tiens, celui-là, il pense comme moi, hein, pensons la même chose, alors on l'aime bien, hein. On l'aime bien parce que dans le fond, n'est-ce pas, quand on l'écoute, on se dit, tiens, c'est ce que je pense, n'est-ce pas? Bon, alors, ça me fait du bien de voir qu'il pense comme moi, n'est-ce pas? Il a exactement la même pensée que moi. Et ça revient toujours au moi. Ça revient toujours à ça. On aime aussi quelquefois pour le dévouement des autres, n'est-ce pas? Le dévouement. Eh bien, il faut absolument proscrire tout ça. L'Écriture nous demande qu'il faut dominer tout ça. Il faut rejeter tout ça. Comme nous avons parlé hier, de rejeter l'amour habituel, commun ou naturel que les membres de famille ont les uns pour les autres quand le Seigneur ne règne pas dans cette famille. Mais si quelqu'un vient au Seigneur, il va haïr, c'est-à-dire supprimer ce genre d'amour et il va lui substituer le véritable amour. On peut dire que l'amour naturel est donc aux antipodes de l'amour de Dieu et réciproquement. Il n'y a rien de commun dans l'amour de Dieu avec un attachement qui s'abandonne aux caprices, qui s'abandonne aux préférences, préférences charnelles, qui s'abandonne aux goûts aussi, aux goûts, qui s'abandonne en somme à l'arbitraire. Vous voyez bien, n'est-ce pas, vous comprenez cela facilement, que l'amour de Dieu, c'est tout à fait en dehors de ça. En dehors, étranger à cela. On peut même dire opposé à cela. L'amour de Dieu est l'amour vrai. Il est la force de Dieu. Il est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et il accomplit la volonté divine maintenant, et naturellement, dans l'état de perfection, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans l'état de perfection, il sera absolument seul. Et le Seigneur voudrait, ça c'est très clair dans les Écritures, il voudrait que maintenant, dans l'Église, c'est-à-dire au milieu des siens, au milieu des membres du corps de Christ, déjà l'amour règne. Et que, par conséquent, on n'est pas besoin de la loi, c'est pourquoi, n'est-ce pas, l'Écriture nous dit, mais si nous sommes à Christ, nous sommes plus à la loi. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. C'est dit tout cela, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être régis par deux systèmes d'éducation. Dieu est un grand éducateur, l'éducateur de l'amour, pour nous conduire à la vie et à l'éternité. Il est l'éducateur. Alors, il ne peut pas nous placer sous deux systèmes d'éducation différents. Il nous place dans l'alliance de la grâce où nous sommes entrés, fondée sur le sang versé à la croix. Il nous place sous la direction d'un mode d'éducation qui est celui de l'amour. L'amour. Autrefois, c'était la loi. La loi n'a rien amené à la perfection, dit l'Épître aux Hébreux. Eh bien maintenant, l'amour va le faire. Dans le temps de la grâce, l'amour va amener les choses à la perfection. Nous devons dire aussi que l'amour de Dieu a sa source en Dieu, tout comme la vie. Et nous pourrions reprendre une expression d'un psaume, « Toutes mes sources sont en toi ». Toutes mes sources sont en toi. Et Dieu est source d'amour comme il est source de vie. L'amour est de Dieu, dit Jean dans sa première épître au chapitre 4. Non seulement Dieu est amour, mais l'amour est de Dieu. Le véritable amour est de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le trouver en nous-mêmes. Il faut qu'il nous soit donné comme la vie nous est donnée. L'amour nous est donné en même temps que la vie, puisqu'ils sont, nous l'avons dit, indissociables. On peut dire qu'il n'y a pas de cause fortuite dans le règne de Dieu. Il n'y a pas de cause fortuite. Toute cause est en Dieu. la cause de quelque chose est en Dieu. Et il faudrait dans l'Église que nous nous habituions à ça. Hein, de ne pas considérer que une chose survient parce que c'était l'enchaînement des circonstances. Une circonstance en a produit une autre et ainsi de suite, puis ça aboutit à ce que nous voyons là, n'est-ce pas? Ou bien alors de considérer que c'est par hasard. Non, il n'y a pas de cela. Toute cause est en Dieu. Et le grand caractère, je le rappelle, de l'amour apparaît à la croix, c'est-à-dire au sacrifice le plus élevé qui puisse être, un sacrifice qui n'a pas de raison. L'amour de Dieu, elle est sans raison. L'amour de Dieu est sans raison, n'a pas de raison. Dieu n'avait pas de raison particulière d'aimer des rebelles, des ennemis, des impies, des pécheurs. Tous ces termes-là sont dits, n'est-ce pas, dans l'Écriture, je ne les invente pas. Vous étiez ennemis avant, vous étiez des ennemis. Vous étiez des rebelles, vous étiez toutes ces choses avant. Eh bien, Dieu n'avait aucune raison d'aimer cela. Nous pouvons nous rappeler que dans l'Exode, à un certain moment où Moïse se trouve en présence de Dieu sur la montagne du Sinaï, alors Dieu apprend à Moïse que dans le bas, là, le peuple, ton peuple, comme il lui dit, ton peuple, c'était le peuple de Dieu aussi, n'est-ce pas, ton peuple s'est corrompu. Ils sont corrompus. Ils ont fait un veau d'or, et puis ils sont en train de danser, et puis de se livrer à toutes les corruptions, à tous les excès possibles, devant ce veau d'or qu'ils appellent l'Éternel. Bon. Alors, Dieu dit à Moïse, écoute, descends. Et moi, je vais supprimer ce peuple. Je le détruis, ce peuple. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de me donner un autre peuple, un nouveau peuple, que je vais tirer de toi, Moïse. C'est de toi. Je vais tirer ce peuple-là, je l'avais tiré d'Abraham, mais maintenant je vais tirer de toi un nouveau peuple. Alors que fait Moïse? Il aurait pu dire au Seigneur Dieu, quel honneur tu me fais. Que c'est magnifique, tu vas me faire le père d'un peuple nouveau. Moi, je vais avoir ce grand honneur, ce grand privilège. C'est de moi que tu vas retirer ton peuple, le peuple que tu vas aimer, que tu vas bénir. C'est pas ça que fait Moïse. Il aurait pu faire ça humainement s'il avait été mu par uniquement la chair. Mais c'est pas ça. Il se met devant Dieu, il dit, Seigneur, tu ne feras pas une chose comme ça. Tu ne vas pas détruire ton peuple. Que dirait-on de toi? Que tu as créé ce peuple, que tu l'as fait sortir d'Égypte pour le détruire. Regarde un peu de quoi ton nom, ton grand renom serait couvert si tu faisais une chose comme ça. Tu ne feras pas cela, Seigneur. Efface-moi plutôt du livre de vie, mais ne détruis pas ce peuple. Est-ce que Moïse était meilleur que Dieu? Est-ce que Moïse avait plus d'amour que Dieu? Non pas. Mais Dieu avait prononcé ce qui était de la justice, c'est-à-dire de détruire un peuple qui constamment se détourne, n'est-ce pas, se détourne de sa voie, se livre à l'idolâtrie qui est la pire des choses, et puis l'idolâtrie amène la corruption. Bon, alors, la justice condamnait ce peuple, le condamnait. Dieu prononce la justice devant Moïse, et puis Dieu attend. Et alors il voit la réaction de Moïse. Et Dieu en est ravi. Il est ravi. Moïse aurait pu manquer là une chose magnifique. L'esprit du salut, l'esprit de la rédemption saisit déjà Moïse. Pierre nous dit que l'Esprit de Christ était déjà dans les prophètes de l'Ancien Temps. Et par conséquent, Moïse, là, est mu par l'Esprit de Christ, l'Esprit de la rédemption. Non, Seigneur, tu ne feras pas ça, tu ne détruiras pas ton peuple. Et l'Éternel se repentit. Pas dans le sens, le même sens que nous, ça veut dire qu'il accepta de changer de position, n'est-ce pas, de changer d'intention. Hein, l'Éternel se repentit. Mais Dieu attendait cela. Et c'est ce qui fait que Moïse a grandi dans la foi devant Dieu. C'était magnifique. L'esprit de la rédemption, l'esprit de l'amour, l'amour qui ne veut pas perdre, qui veut conserver. Quand il dit un peu plus, ils vont me lapider moi aussi. N'est-ce pas ? Et Dieu n'avait aucune raison. L'amour n'a pas de raison. N'a pas de raison, n'a pas de cause. L'amour s'exerce parce qu'il est l'amour, parce qu'il veut conserver, parce qu'il veut donner la vie, il ne veut pas perdre. Dieu ne consent pas à la perte, à perdre quelque chose, ne consent pas à perdre. Et la preuve, ce sont les enseignements par parabole du Seigneur Jésus, cette pauvre femme qui n'a plus qu'une malheureuse pièce de monnaie, n'est-ce pas ? Une drachme, et cette pièce, elle la trouve plus. Alors elle remue tout dans la maison, elle balaye pour retrouver cette pièce perdue. Ça nous montre que le Seigneur veut pas perdre, n'est-ce pas, la moindre chose. Le Seigneur, lorsqu'il y a eu la multiplication des pains, a dit aux apôtres, emportez les corbeilles, ramassez les morceaux qui restaient emportés. N'allez pas jeter ça, n'allez pas le perdre. On ne perd pas. Dieu ne veut pas perdre. Et la brebis perdue, le berger qui a 100 brebis, il en a 99 autour de lui, il les compte, il en manque une. Il pourrait dire, ma foi, je la vois pas, elle n'est pas là. Tant pis, il faut que je m'occupe des 99. Non, il laisse les 99 là. Il les laisse là, sur le pâturage, et il court par monts et par vaux pour chercher la brebis manquante. Il ne veut pas subir une perte. Dieu ne veut pas perdre, c'est ça l'amour. Il ne veut rien perdre. Mais sans cause, il n'y a pas de raison. L'amour n'a pas de raison. Souvent, les amours fraternels ou conjugales sombrent, lamentablement, parce que on s'attend à recevoir et non pas à donner. On s'attend à recevoir et non pas à donner. Combien de fois, hélas, n'ai-je pas entendu ça ? Oui, oh non, il n'y a pas d'amour dans cette assemblée, non, ceci, cela. Et pourquoi, je demandais souvent, pourquoi jugez-vous qu'il n'y a pas d'amour ? Regardez, je suis passé là, personne m'a salué, j'avais besoin de ceci, il n'y a eu personne pour me donner, etc. Bon, alors, c'est pour vous, c'est à cause de vous, parce que vous n'avez pas reçu, que vous déclarez qu'il n'y a pas d'amour. Mais avez-vous, vous, fait le sacrifice de votre personne pour eux ? Le véritable amour, si vous l'aviez exercé, vous vous seriez sacrifié pour eux. Et certainement que vous auriez eu en retour des manifestations de l'amour. L'amour ne cherche pas à recevoir, n'attend pas à recevoir. L'amour donne. Il y a bien plus de joie à donner, a dit le Seigneur, qu'à recevoir. Voyons l'amour et l'homme. Et puisque Dieu a introduit l'amour dans toutes les structures de sa création. Je ne sais pas si vous êtes un peu philosophe, il doit y avoir chez vous quelques-uns qui sont philosophes, mais attention, il ne s'agit pas de lire les bouquins de philosophie, n'est-ce pas, ou d'aller faire une thèse de philosophie. Non, la plupart des agrégés de philosophie, je dis la plupart, je ne voudrais pas qu'il y en ait un ici quand même, mais la plupart des agrégés de philosophie nous ont joué des mauvais tours, hein, des mauvais tours. vous savez, ils n'ont pas répandu vraiment la science de l'amour. Mais il faut tout de même pouvoir, quelquefois, se livrer à la bonne philosophie. Philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. N'est-ce pas ? L'amour de la sagesse. Il faut pouvoir, quelquefois, réfléchir. Et nous sommes conviés à réfléchir. Les proverbes disent « Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses ». Eh bien, si on réfléchit à la création, nous y sommes invités, de réfléchir à la création. Nous regardons, par exemple, ce venu à Perdillot, là, c'est l'esprit qui vous a amené à Perdillot, notez. Eh bien, alors nous regardons ces frondaisons, elles n'ont pas toujours été comme ça, les frondaisons, parce que je sais que Madame Christian qui est là, elle a planté des lauriers qui n'étaient pas grands quelquefois, n'est-ce pas ? Mais ils ont grandi, c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est beau la nature, c'est beau, c'est agréable. C'est agréable, vraiment, elle est bien faite pour nous, cette nature. Eh bien, dans cette nature, il y a l'amour de Dieu. Les structures, toutes les structures de la création, j'emploie le terme comme en Romains 8, vous savez, la création, n'est-ce pas ? La création. Eh bien, les structures de la création sont établies sur l'amour. Réfléchissez par exemple simplement à ceci. Pourquoi les arbres fruitiers, la saison venue, le mois de mai, le mois de juin ou le mois de juillet, pourquoi ces arbres donnent-ils de beaux fruits, magnifiques ? Pourquoi ces beaux fruits ? Pourquoi ? C'est pour nous, le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas ? Que ces fruits étaient pour la créature humaine. Mais comment sont-ils venus, ces fruits ? Ils sont venus en raison de l'amour. L'arbre n'a pas été tout seul. Il y en avait un autre, il y en avait d'autres, qui, eux, portaient le pollen. Et les autres portaient les fleurs avec les étamines. Et puis alors, ce pollen, le vent l'a transporté, ou les abeilles sont allées le chercher, n'est-ce pas ? Et elles ont tout ce qu'il faut, un petit magasin, des petites choses là, pour transporter ça. Elles ont apporté ça sur les fleurs, donc, qui ont été fécondées, et il en est sorti le fruit. Mais c'est le principe de l'amour. C'est la fonction de l'amour. L'amour, c'est cela. L'arbre aurait pu... certaines espèces qui sont auto-pollénies. Ils ont eux-mêmes leur pollen, n'est-ce pas ? Bon. Mais en général, il y a le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle, et c'est par l'action, l'union des deux, que le fruit est porté. Et nous, chers amis, nous, c'est par notre union avec le Seigneur Jésus, que nous pouvons porter du fruit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous portons du fruit parce que nous unissons. Parce que le Seigneur nous unit à son Fils. Et c'est pourquoi il allait de soi que l'Église soit vue comme une épouse. Et lui, comme l'époux. Quelle belle figure que cela. L'époux, il va même y avoir les noces de l'agneau. Bientôt. Je ne sais pas si vous y serez. Si vous êtes convoqués. Convoquer, oui, vous l'êtes, mais attention, il faut se préparer aux noces de l'agneau, il faut s'y préparer. Alors, là, quelle belle figure, n'est-ce pas ? L'épouse sera unie pour l'éternité à son époux. Nous, c'est une figure peut-être un peu difficile à comprendre, parce que l'épouse, c'est une collectivité à n'en plus finir. C'est un monde nombreux comme le sable des plages. Bon, et puis l'époux, c'est une seule personne, n'est-ce pas ? Mais pourtant, la figure est magnifique. La figure est belle. Dans l'Ancien Testament, déjà, il était dit, l'Éternel est ton époux. Tout est fondé sur l'amour. Et c'est pourquoi le mariage est une chose extraordinaire, une chose même prophétique au regard de Dieu. Le mariage. Parce que c'est là un des grands sentiers de l'amour. C'est là une des grandes marches, une des grandes démarches de l'amour. Donc, je disais que Dieu a introduit l'amour dans toutes les structures de sa création. L'homme lui-même a été créé pour aimer, et c'est sa destinée, c'est sa vocation. Chers amis, quand l'Écriture vous parle de votre vocation céleste, c'est ça, votre vocation. N'allez pas chercher, c'est l'amour, c'est d'aimer. Je vous citerai pour illustrer ça simplement ceci. Pour marcher d'une manière digne, il faut, n'est-ce pas, que nous marchions d'une manière digne de notre vocation. Alors, que faut-il? Eh bien, Éphésiens 4, verset 1 nous le dit, humilité, douceur, patience, se supporter avec amour et conserver l'unité de l'esprit. Voilà. Alors, si vous faites cela, vous êtes dans votre vocation. La vocation que Dieu nous donne, c'est d'aimer. Oh, comme je voudrais que vous qui êtes ici, et puis ça s'élargira, n'est-ce pas? Eh bien, que vous qui êtes ici, plus jamais, parce que vous l'avez peut-être déjà fait, hein, moi aussi, vous l'avez peut-être déjà fait, peut-être vous êtes énervé à l'adresse d'un frère, peut-être vous lui avez riposté, peut-être vous avez manqué d'amour d'une façon ou de l'autre. Ne le faites jamais plus. Prenez aujourd'hui devant le Seigneur, n'est-ce pas, cette glorieuse décision de ne plus faire. Je t'obéirai là-dessus, Seigneur, maintenant, parce que c'est capital. Jamais. Même si quelqu'un, n'est-ce pas, m'agace, voyez-vous, Moïse, je vous disais tout à l'heure qu'il était un grand dans la foi, un géant de la foi. Il s'est énervé une fois. Il y avait de quoi s'énerver. Enfin, le peuple était vraiment énervant. Moi, à sa place, je crois que vous serez énervé encore plus. Il était énervant, ce peuple, de toujours discuter, murmurer. Hein. Il s'est énervé. Et alors là, il a été dans l'incapacité de faire ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, voilà, tu frapperas le rocher, et le rocher donnera de l'eau, puisque le grand sujet de la dispute, du murmure, c'était le manque d'eau. Bon, le rocher donnera de l'eau et abreuvera son peuple. Bon, alors Moïse, qui était énervé, commence à reprendre le peuple. « Ah oui, est-ce que c'est de ce rocher que de l'eau va sortir? Enfin, tout de même, quoi, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Il parle au peuple avec énervement. Il frappe le rocher, et l'eau sort. Bon. Mais le Seigneur, après, lui dit, « Toi et ton frère Aaron, vous avez péché. Vous avez péché. Vous avez péché. » En quoi Moïse avait-il péché? Eh bien, en ce qu'il s'était énervé. Oui, ça c'était... C'était la cause, si vous voulez. Mais en ce que le Seigneur lui avait pas dit de parler au peuple, et surtout pas de reprendre le peuple, il n'avait pas dit de reprendre le peuple. Il y a des moments où Dieu ne veut pas reprendre, Dieu ne veut pas gourmander, Dieu ne veut pas prononcer des paroles de réprobation, elles seraient justifiées, mais il y a des moments où Dieu ne le veut pas. Et Dieu ne lui avait pas dit de reprendre le peuple, il lui avait dit simplement de faire le prodige. Il lui avait donné le pouvoir pour faire ce prodige. Et le prodige devait tout simplement confondre le peuple. Si Moïse avait obéi, avait fait simplement le prodige, sans rien dire, le peuple aurait vu l'eau en abondance sortant du rocher par miracle. Et alors, le peuple se serait prosterné. Se serait humilié et se serait repenti. Et c'était ça qui était bon. Tandis que là, n'est-ce pas, il ne l'a pas fait. Et alors, Moïse n'a jamais eu l'oubli, n'a jamais obtenu de Dieu l'oubli de cette chose. Plus tard, il laisse passer les semaines, et puis, alors plus tard, il revient, puis il dit, Seigneur, Seigneur, tu me laisseras faire entrer le peuple dans le pays de la promesse, parce que c'était ça qu'il avait en vue. Évidemment, ça aurait été pour lui une belle récompense sur le plan du moment. Laisse-moi faire entrer ce peuple. Non, non, tu mourras ici, de ce côté-là du Jourdain, mais c'est pas toi qui feras entrer le peuple. Naturellement, Dieu a manifesté sa rigueur de cette manière, mais ensuite, après la mort de Moïse, il est venu faire son inhumation. Dieu est venu l'enterrer. Dieu est venu enterrer Moïse. Enfin, quelle manifestation ! Et plus tard, Moïse était là sur la montagne de la Transfiguration. Vous voyez, Dieu s'est pardonné, mais Dieu s'est reprendre aussi. Et Dieu s'est montré, il s'est montré qu'il ne faut pas qu'il y ait de faute dans l'amour. La faute dans l'amour, c'est une chose qui blesse terriblement le cœur de Dieu et qui nous détourne de notre vocation. Dans la vie chrétienne, l'amour appelle l'homme à une consécration sans restriction, en s'offrant comme un sacrifice vivant. C'est Romains 12, vous connaissez ce passage, versets 1 et 2, qui nous le disent. Alors, ne cherchons pas la réalité d'un tel amour dans les possibilités naturelles de l'homme, car l'amour ne peut résulter que d'un nouvel acte créateur. L'amour ne résulte que d'un nouvel acte créateur. Vous avez été créés en Jésus-Christ, dit Éphésiens 2:10. Vous avez été créés en Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que l'amour n'a pas de limite. Comment est-il venu sur la terre et peut-il pénétrer les hommes ? Comment l'amour de Dieu est-il venu ? Comment peut-il pénétrer les hommes ? Mais la réponse, c'est l'incarnation. Il est venu par l'incarnation du Fils de Dieu. Et pas seulement l'incarnation, mais ensuite par le sacrifice de la vie de ce Seigneur, par sa résurrection. Il a expié les péchés en donnant la vie aux croyants. Et en leur donnant la vie, il leur a donné l'amour. Ainsi, pour que l'homme puisse aimer, il faut que Dieu lui ait donné un cœur nouveau dont parlait l'Ancien Testament, Ézéchiel 36 notamment. Dans la consécration du chrétien, l'amour qu'il exerce à l'égard des autres remonte à Dieu avant de descendre sur les autres, sur eux. L'amour remonte à Dieu. L'amour va d'abord vers son véritable objet. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. D'abord son objet. L'amour va d'abord là. Et puis l'amour redescend sur les autres. Il vient sur le frère, il vient sur le prochain, associé à l'amour de Dieu. N'est-ce pas ? Quand nous aimons le frère ou que nous aimons le prochain, nous pouvons avoir cette pensée, mais Dieu m'aime. Bon, j'en ai une grande certitude. Et puis Dieu aime cet homme-là ou cette femme-là aussi. Dieu l'aime aussi. Et si moi je n'aime pas cette femme ou cet homme, alors il y a un triangle qui n'est pas fermé. Dieu m'aime, Dieu aime cette personne, et de cette personne à moi, il n'y a pas l'amour. Le triangle n'est pas fermé, il faut que le triangle soit formé. Dieu m'aime, j'aime Dieu, Dieu aime cette personne, et moi j'aime cette personne aussi. Tout cela est dans le même trajet de l'amour de Dieu. Alors, nous terminons et nous concluons par ceci. L'amour est le lien de la perfection. L'amour divin, donc, est un lien intérieur, immatériel, comme la vie. La vie est une puissance immatérielle aussi. Un lien intérieur, un lien immatériel et puissant qui unit les êtres vivants et qui même fait qu'il y a des êtres vivants. Je viens de vous l'expliquer sommairement par la question du fruit, du pollen et des fleurs fécondées par le pollen, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a vie, il y a apparition de vie, apparition d'un fruit, le fruit lui-même va donner d'autres plantes. Il y a apparition donc de la vie parce qu'il y a la fonction de l'amour, le jeu de l'amour. L'amour est donc le principe de la perfection, et la perfection est le produit de l'amour. La perfection, l'état de perfection est le produit de l'amour. L'amour forge et retient l'unité sans laquelle les éléments seraient épars. Et Dieu ne veut pas qu'on soit en ordre dispersé, qu'on soit épars, en ordre dispersé. Attention, l'Église, qui en somme, une Église locale qui est composée de pas mal de membres, ils se connaissent même pas, ils se saluent pas. Mais ils vont à la même réunion, ils sont là ensemble, et puis une fois la réunion finie, pof, 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 tout le monde se disperse, et il n'y a pas d'union, il n'y a rien du tout. Sur le plan de la réalité tout de même visible, pratique, et ce plan-là est intéressant, eh bien, ça c'est regrettable, c'est infiniment regrettable, c'est douloureux. C'est pourquoi il est même dit, n'est-ce pas, exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Ça c'est une chose nécessaire parce que ça fait partie de ces manifestations qui partent du cœur, manifestations de lien, d'unité. Dieu ne veut pas d'un corps dont les éléments puissent être épars. Il y a un lien de l'esprit qui doit continuellement unir les éléments. L'Église, corps de Christ, ne peut même pas se construire vraiment et manifester la vie sans l'amour. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 4. Je terminerai par cette citation. Éphésiens 4. Et verset 16, évidemment la traduction ici pas toujours excessivement claire, mais on la comprend quand même. C'est de lui, c'est-à-dire de Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, l'Église, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie, ça veut dire se construit, et se construit lui-même dans l'amour. Chers amis, c'est magnifique, voilà la bonne vision de l'Église, se construit dans l'amour. Alors que toutes ces choses soient dans nos cœurs, chers amis, que nous y repensions, en faveur essentiellement de l'Église, n'est-ce pas ? Le Seigneur veut cette Église, il la désire, elle est appelée l'Église de Christ, elle est appelée l'Église de Dieu, il la désire comme cela, et l'Église ne peut croître, grandir que dans l'amour, en tirant chaque partie, tire ce qui lui revient du Seigneur, et alors il y a le lien, ce lien magnifique qui unit toutes les parties, voilà la vision que le Seigneur nous donne de l'Église. Et que sa volonté soit faite. Amen.